Bonjour à toutes et à tous, Mémoire Aveyronnaise numéro 8 sur CFM Rodez. Bien sûr, on a le plaisir de retrouver Vincent Besombe, président du comité Rodez du Souvenir Français. Salut Vincent.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui, comme d'habitude, parfait, écoute, impeccable,
bon,
voire même deux impeccables.
Alors c'est peut-être les fêtes qui arrivent qui te mettent
de bonne humeur. Bien sûr.
Oui, et les fêtes d'ailleurs, on va s'y intéresser hein, dans ce numéro 8 de Mémoire Aveyronnaise avec un sujet d'actualité. Même si on va aussi voyager à travers le temps.
C'est ça.
Pour ce numéro 8, tu nous avais annoncé il y a une quinzaine de jours un sujet autour des prisonniers de guerre, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, le Noël des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Prisonniers français.
Prisonniers français.
Oui. Prisonniers de guerre.
De guerre.
Précisons.
Alors, parce qu'ils étaient prisonniers, ces soldats français, mais ils avaient quand même le droit de fêter Noël.
Oui, alors c'est surtout du cas par cas. Je pense que ça devait vraiment dépendre des commandants de camp. Et puis aussi de la discipline ou de l'indiscipline des prisonniers.
Eh oui. Alors, tu as plusieurs histoires à nous raconter à ce propos.
Oui.
Et notamment des histoires qui concernent les Aveyronnais, évidemment.
Bien sûr, mais je garde ça pour la fin.
Alors, les prisonniers d'abord. Aveyronnais ou pas?
Alors, bon, je suis désolé, vous savez que j'aime bien les chiffres. C'est important en histoire. Il faut toujours replanter le décor. Alors, du 3 septembre 1939, donc la déclaration de guerre, au 10 mai 1940, en fait, il y a eu des prisonniers, mais on a vraiment du mal à savoir exactement combien il y a eu de prisonniers français. C'est la drôle de guerre.
Il y a eu des prisonniers pendant la drôle de guerre?
Oui, mais bien sûr, parce qu'on se regarde en chien de faïence de chaque côté, mais il y a quand même
des petits accrochages
ou des missions de reconnaissance, où justement on va capturer des ennemis pour essayer de se renseigner, etc.
D'accord.
Donc il y en a eu peu, à mon avis, très peu. C'est vraiment, vraiment, je pense, anecdotique. Le 10 mai, pourquoi le 10 mai 1940? Parce que c'est là où, justement, il y a la percée des Ardennes qui va... Le plan Schlieffen qui va... où l'armée allemande va traverser les Ardennes pour entourer l'armée française.
Encercler, même.
Encercler, voilà.
Ah ouais.
La tenaille, hein, comme dirait Cruchot.
Ouais.
Là, par contre, ça rigole plus. C'est vraiment la guerre. Et du 10 mai 1940 au... même après l'armistice du 22 juin 1940, il va y avoir énormément de prisonniers. Ça va être une véritable catastrophe. On l'a dit pour le 122e RI, quasiment l'ensemble du 122e RI va être fait prisonnier à Dunkerque. Donc au niveau des prisonniers français, là ça se compte en millions, on a 1 845 000 prisonniers de guerre français, ce qui est vraiment énorme. Il faut imaginer un peu nos campagnes, toutes ces mères de famille qui vont rester toutes seules. En comparaison, je vais comparer avec la guerre de 14, il y en a eu relativement moins, bien qu'il y en a eu aussi beaucoup, mais là c'est un peu tabou, on n'en parle quasiment jamais des prisonniers de guerre de la guerre de 14. C'est 535 000, avec un prisonnier très connu, le général de Gaulle.
Ah, pendant la guerre de 14.
Pendant la guerre de 14, alors qui n'était pas encore général, qui était, si je ne me trompe pas, lieutenant, je crois, ou sous-lieutenant, et qui a été fait prisonnier à Verdun. Alors, sur ces 1 845 000, on estime à peu près à 80 000 qui réussissent à s'échapper avant d'arriver en Allemagne.
Parce que tous les prisonniers militaires français, enfin en 40, étaient envoyés en Allemagne dans des camps de prisonniers?
Non. Pas tous.
Ah.
Merci de poser cette question. Alors, je suis désolé de parler de couleur, mais les soldats blancs, oui. Les métropolitains, oui.
Ouais.
Les soldats coloniaux, non.
Ils n'en voulaient pas en Allemagne?
Ils avaient peur du mélange. Je rappelle, l'Allemagne nazie, la race aryenne.
Ouais.
Il fallait surtout pas tenter le diable, bien entendu, avec d'éventuels rapprochements entre des femmes allemandes et des coloniaux. Donc, les métropolitains, oui, ont été expédiés en Allemagne. Les coloniaux, eux, sont restés en France dans ce que l'on appelle des fronts Stalag. Alors, les Stalag, c'est les camps de prisonniers. Kriegsgefangenen, Mannschaft, Stammlager.
Ça fait presque peur.
Ça fait presque un petit peu peur, voilà, avec mon bon accent aveyronnais. Kriegsgefangenen, ça veut dire prisonnier de guerre.
Hein. D'accord.
Alors, Front Stalag, donc c'est les Stalag du front, les camps de prisonniers du front, notamment en France. C'est là aussi où ont été, les premiers camps des soldats français étaient faits prisonniers en France. Ils étaient mis dans les Front Stalag et ensuite dirigés donc vers l'Allemagne, soit dans des Stalag pour les hommes de troupes et les sous-officiers, soit dans des Hoflag, comme son nom l'indique, officier. Voilà.
Ah ouais, d'accord. Voilà.
On mélangeait pas
selon le grade les prisonniers.
Non, bien sûr, ça c'est encore les restes de l'armée prussienne, très à cheval sur le règlement, très à cheval sur tout ça. Non, surtout pas.
D'accord.
Alors ensuite, on continue les chiffres. 330 000 prisonniers seront libérés entre 1940 et 1941. Principalement, souvent, c'était pour des raisons médicales, des raisons de santé. Pas que, mais voilà, principalement. Mmh. En mai 1942, les Allemands demandent à la France de fournir 250 000 travailleurs qualifiés.
Pour les usines allemandes.
Pour les usines allemandes, voilà, parce que il y a eu la campagne de Russie, beaucoup de morts, où beaucoup d'hommes et de jeunes sont partis sur le front. Donc ça veut dire beaucoup moins de travailleurs. Le gouvernement de Vichy va accepter, mais à contre-cœur bien sûr, mais va quand même essayer de négocier un peu. Ils vont essayer de négocier 50 000 retours de prisonniers de guerre en échange de 150 000 travailleurs qualifiés. On compte donc à peu près un prisonnier qui revient pour trois travailleurs qualifiés qui vont travailler en Allemagne. Mmh. Toujours en 1942, en accord avec le gouvernement de Vichy, 210 000 prisonniers vont travailler comme travailleurs civils en Allemagne. Alors, ils seront sortis de leur camp de prisonniers pour retrouver des camps de travailleurs. Ça sera quand même un peu... C'est toujours des camps hein, où ils sont plus ou moins enfermés, mais la vie sera plus facile. Donc, 210 000. Et malheureusement, entre 1940 et 1945, on va compter environ 51 000 prisonniers français qui vont trouver la mort en captivité. De maladie, parfois, j'espère, moins de mauvais traitements. Et aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est les bombardements alliés.
Ah oui, pas forcément qu'ils lâchaient des bombes sur des camps de prisonniers.
Sur des camps de prisonniers, ou alors ils allaient travailler ailleurs dans les usines et tout ça. Mmh. Les usines allemandes, c'était une priorité pour les Alliés au niveau des bombardements. Hein.
Donc 51 000 morts.
51 000 morts.
Français.
Oui.
Prisonniers français. Alors,
je parle que des Français. C'est vraiment énorme. Avec un retour très 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 difficile. Il va y avoir un tabou. Moi, j'ai eu des témoignages de retour vraiment pénibles pour ces prisonniers de guerre. Une culpabilité. Également du côté des civils, beaucoup leur ont reproché nous ici on manquait de tout, on crevait de faim, c'était les restrictions, vous étiez bien au chaud dans vos camps de prisonniers, vous aviez votre petite soupe
oui, parce que
chaude tous les jours.
Quand on est prisonnier de guerre, c'est des statuts internationaux, la convention de Genève, je sais plus,
qui font que
normalement, et les Allemands qui avaient bien des défauts là-dessus, ils respectaient les militaires sont relativement bien traités par rapport à des civils
bien
en
sûr,
prison.
Bien sûr, bien sûr.
Les conditions sont meilleures.
Moi, je compare toujours les prisonniers de guerre avec la résistance. La résistance, pour eux, c'était des terroristes.
Ah oui, il fallait les abattre,
ouais. Sur place si on pouvait. L'armée, non, j'en ai parlé. C'est vraiment les restes de l'ancienne armée prussienne. Donc, même s'il y a eu des exactions, même s'il y a eu de mauvais commandants de camp, il y avait quand même un certain respect pour l'uniforme, bien sûr. Bien
Et
entendu.
Donc, des prisonniers de guerre qui étaient dans des camps en Allemagne, bon, c'était pas marrant, mais qui avaient la possibilité de pas rester enfermés entre quatre murs à longueur de journée.
Bien sûr. Alors, comme je viens de le dire, on sait très peu de choses sur ces prisonniers. On connaît vraiment très très peu de choses parce que ils se sont murés dans le silence. Et moi, j'ai fait de superbes découvertes. Je suis collectionneur, tu le rappelles assez souvent, et j'ai beaucoup de documents qui m'ont été donnés ou que j'ai trouvé sur des brocantes ou sur Internet. Beaucoup de photographies, beaucoup de lettres, beaucoup de papiers où justement on voit un petit peu la vie du camp. J'ai des photos extraordinaires.
Ils pouvaient prendre des photos dans le camp.
Bien sûr.
Carrément.
Ah oui, bien sûr. Par contre, toutes les photos sont tamponnées par le camp. Derrière.
Photo autorisée.
Tout était bien sûr. Tenu par la censure. Hein. Alors, il y avait beaucoup d'activités dans les camps. Il y avait vraiment beaucoup d'activités.
Moi, je me rappelle, j'ai vu un film que j'ai bien aimé il y a longtemps.
La Grande Évasion ?
Non, à nous la victoire. Avec Ardiles, des joueurs de foot, où il y a un match de foot qui se joue dans un camp allemand. Alors, c'est des prisonniers, pas Véronée, là. C'est des prisonniers américains. À nous la victoire ?
Bon,
je t'apprends quelque chose.
Merci du partage.
Et je te conseille. Je te conseille, Vincent.
Tu vois le partage,
voilà,
c'est bien. Hein. C'est
donc, je sais
qu'ils
jouent au foot, enfin, en tout cas dans les films américains.
Tout à fait.
Okay.
Tout à fait. Alors, moi, j'ai des photos, par exemple.
Sylvester Stallone aussi dans ce film.
Ah bon?
Oui, Vincent.
Ah ben voilà, raison de plus pour le regarder.
Bon, pardon, allez, revenons à l'histoire, la vraie.
Voilà, alors moi j'ai des photos, beaucoup de photos de le sport, le premier aujourd'hui et même à l'époque, foot, comme tu disais, mm-hmm. avec même des compétitions, mm-hmm. du rugby, de la boxe aussi, où ils installaient carrément. Alors moi ce qui me surprend toujours, c'est l'équipement, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'équipement. Également, j'ai beaucoup d'objets réalisé dans les camps et de photos même d'exposition, notamment on parle de Noël, notamment pour des Noëls, il y avait beaucoup d'ateliers d'artisanat.
Ah oui.
Alors on travaillait beaucoup le bois, on faisait des cadres, on faisait des objets en bois, vraiment beaucoup de choses, des dessins aussi, des peintures. Il y avait de véritables artistes. Les gens étaient à l'époque, on peut le dire, plus manuels que maintenant.
C'est sûr.
Également, ce qui est surprenant, de très très beaux et parfois des grands orchestres de musique. Alors avec tous les instruments possibles et imaginables, même, genre, j'y connais rien en batterie, mais la grosse caisse de la batterie, même peint le nom du groupe avec nom du Stalag.
Ah, style musical.
Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est ça. et puis aussi des troupes de théâtre.
D'accord.
Voilà, avec moi j'ai un artiste connu à l'époque qui a fait des décors vraiment somptueux, des dessins préparatoires pour des décors de théâtre, vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qui nous ramène à Noël, bien
oui.
sûr,
mmh.
Puisque à Noël il y avait dans certains stalags, il pouvait y avoir des soirées de Noël, des veillées avec repas un tout petit peu amélioré, avec justement des orchestres. Moi, j'ai des programmes de festivités de Noël avec plein de pièces de théâtre, plein de concerts, plein de morceaux de musique. Donc là, vraiment, ouais, on voit que ça pouvait effectivement bouger et on est loin vraiment de s'imaginer que dans certains camps, il pouvait y avoir une vie créative aussi développée.
Alors, j'imagine quand même... C'était pas comme certains réveillons arrosés.
Non, oui.
Grosse fête quand même.
Non. Et puis, alors je vais vous lire un carnet de prisonniers que j'ai récupéré, un carnet aveyronnais, justement où voilà le cœur y est pas quoi. La pensée pour les familles, la pensée pour la France, pour la maison quoi. C'est ça, c'est sûr. Hein, de toute manière, peut-être qu'ils arrivent à s'évader un petit peu dans l'esprit, mais voilà le cœur y est pas vraiment. Et puis, une dernière chose aussi, c'est les colis. Ils recevaient beaucoup de colis, notamment pour les fêtes, enfin, un peu tout le temps dans l'année, mais forcément, la Croix-Rouge, les familles, même le gouvernement, il y a des colis spéciaux de Noël du maréchal Pétain qui étaient envoyés. Moi, j'ai une étiquette de colis comme ça, offert par le maréchal Pétain. Voilà, Noël, c'était quand même, on essayait de la France de leur faire vraiment penser à autre chose. Alors, je vais vous lire deux passages d'un carnet de prisonniers originaire de l'Aveyron, qui s'appelait Burguière. Alors, j'ai pas du tout son grade, j'ai pas du tout son unité, j'ai juste son numéro matricule.
Et tu nous lis ça depuis un carnet d'époque. C'est le vrai carnet.
Ouais. Alors, celui-là a été récupéré en brocante j'avais récupéré ça il y a des années. Lui, il était au Stalag 1A. Alors, je vais vous lire donc deux passages. Je vais vous lire ce qu'il a écrit pour Noël 1940 et Noël 1941. Il écrivait au jour le jour. Alors, des fois, il écrivait pas grand-chose. Ce jour, reçu un colis. Ce jour, écrit et envoyé un courrier à telle ou telle personne. Mais là, vraiment, ces deux passages sont assez intéressants pour notre histoire d'aujourd'hui. Noël 42, je l'ai pas. Il reprend un peu en 44. On voit qu'il a laissé un peu tomber son carnet. Mmh. Alors, mardi 24 décembre 1940, je reçois un colis. Le chef du camp nous autorise à faire un petit réveillon, si l'on peut dire. Nous avons la permission de rester au réfectoire jusqu'à minuit. Quant à moi, avec mon ami Barbas, ainsi que Constant, Fauti et Cassagne, nous faisons un vrai réveillon. Mes camarades ayant beaucoup reçu de conserves, entre autres des pâtés de foie d'oie. Quant à moi, à mon grand regret, je ne pourrais rien offrir sur le colis, car j'avais finalement reçu que des linges. Malgré ce triste réveillon, la soirée se termine dans la joie et en souhaitant que l'an prochain, nous le passerons chez nous et on finit par des chansons. Pendant la soirée, notre caporal nous distribue différentes choses. Cigarettes, dentifrice, savon, cirage, rasoir et lame. Donc voilà pour le Noël 1940.
Où il espérait qu'en 1941, il serait plus au Stalag et loupé.
Et oui,
il y était encore.
Et oui, il y était encore. Donc on va voir maintenant le Noël 1941, un an après. Et là même encore,
il espère encore.
Malheureusement,
le malheureux.
Nous, on connaît, on connaît la suite. Eux, c'est vrai que ça devait être terrible, quoi. Noël 1941, bien triste Noël, avec soirée de réveillon. Je l'ai passé chez nos fermiers. Alors là, je pense en fait qu'il a dû, comme
travailler.
Beaucoup, voilà, travailler dans des fermes où il y avait plus personne. Hein. D'ailleurs, il y a des histoires assez amusantes où à la libération, moi j'ai eu des témoignages de soldats de l'armée française qui libéraient l'Allemagne, où ils étaient obligés presque de kidnapper ou d'assommer.
Ouais, les mecs, ils voulaient plus repartir.
Ils voulaient plus repartir parce que
histoire d'amour. Ben c'est ça.
Familles, il y avait plus d'hommes dans la ferme. Ils étaient morts sur le front russe ou en Normandie. C'était presque devenus les chefs de famille, malgré que ça soit strictement interdit et puni pour dans certains cas de mort. Hein. Mais voilà, des histoires s'étaient créées. Donc je reprends. Je l'ai passé chez nos fermiers. Pour eux, c'était la fête. Quant à moi, ma pensée était bien loin d'ici. Je dois dire cependant qu'ils ont été très gentils pour moi et je n'ai pas oublié leur cadeau de Noël. La journée de Noël, le matin, j'ai assisté à l'appel fait par la sentinelle. Nous avons eu une distribution de différentes choses ainsi que des vivres de la Croix-Rouge française. L'après-midi, je suis allé chez un camarade belge. Nous étions 10 prisonniers français et belges. Là, nous avons passé une joyeuse après-midi. Nous avons beaucoup parlé de nos chers pays et surtout des êtres qui nous sont chers. Ici, la fête dure 3 jours de suite et cette année, elle fait 4 jours puisqu'il y a le dimanche qui suit. Avant de nous séparer, nous avons fait le serment, si nous étions rentrés pour Noël 42, de nous réunir chez un camarade belge à Charleroi. Voilà.
On voit leur espoir de tous les ans que ça se termine.
Mais l'espoir, il n'y a que ça. C'est ce qui raccroche. Hein.
Et oui.
Je vais à présent, pour terminer, lire quelque chose de totalement différent, mais qui touche aussi Noël. Alors là, on n'est pas dans les camps de prisonniers, bien qu'on parle de prisonniers. C'est un tract de la résistance. Donc ça doit dater de la fin de la guerre. On doit être en 44. C'est assez amusant. C'est un tract roméotypé qui était lâché dans la rue ou mis dans les boîtes aux lettres. Alors je précise que c'est, on va parler d'un archevêque et d'un diocèse, c'est totalement anonyme puisque ça devait pouvoir se lire un petit peu partout en France, mais c'est assez amusant. Alors je vous la lis. Lettre pastorale de son éminence Monseigneur l'archevêque aux fidèles de son diocèse. Mes très chers frères, en raison des événements actuels, j'ai la tristesse de vous annoncer qu'il n'y aura pas de fête de Noël cette année. L'étable est réquisitionné. La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus ont été évacués et Saint-Joseph est dans un camp de concentration. Les bergers sont réfractaires au service du travail et se sont camouflés dans les montagnes. Les moutons ont été saisis et amenés en Allemagne pour le ravitaillement de la population berlinoise. Les rois mages sont passés à la dissidence. Les anges ont été descendus par la DCA. Les étoiles sont détenues par le chef de l'État. L'âne, je pense que c'est Mussolini. L'âne est à Rome et la vache à Berlin. Alors la vache, je ne sais pas trop qui c'est. Prions, mes très chers frères, pour que De Gaulle et Giraud obtiennent la victoire et nous délivrent du mal. Et maintenant, prions. Notre De Gaulle, qui êtes au feu, que votre nom soit glorifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre, sur mer et dans les airs. Donnez-leur aujourd'hui leur bombardement quotidien et rendez-leur au centuple les souffrances qu'ils ont fait subir aux Français. Ne nous laissez pas sous leur domination et délivrez-nous des boches. Ainsi soit-il. Dieu, exaucez ma prière, donnez aux Français l'espérance, aux Anglais la vaillance, aux Américains la priorité, aux Allemands le four crématoire, enfin aux Italiens pour que rien ne se perde, puisqu'ils ont le Po, c'est un fleuve italien, aux Italiens, pour que rien ne se perde, puisqu'ils ont le Po, donnez-leur la M. et plein de petits points de suspension. c'est marqué comme ça. Ainsi soit-il.
Ouais, alors oui, l'archevêque, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère.
Voilà, puis c'est engagé. C'est un archevêque FFI, pour le moins.
voilà. Comme complètement revisiter les textes traditionnels.
Tout à fait.
Super, donc ça, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Pas loin de la libération. Hein.
Pas loin de la libération, mais bon, il faut pas oublier non plus que tu parles de libération. Nous, on a été libérés le 18 août 44. Les prisonniers sont pas rentrés avant l'été 45. Donc nous, on était libérés, pas eux. Ça a duré encore très très longtemps.
Des prisonniers français qui ont, pour ceux qui ont survécu à ces internements, tu nous dis 50 000 morts, ont pu vivre un vrai Noël, enfin qui devait pas être bien bien gras.
Non.
Donc en 1945.
Oui.
Noël 1945.
Oui, enfin chez eux. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup Vincent.
Mais non, merci à vous.
Pour ces beaux moments d'histoire partagés encore une fois dans Mémoire Aveyronnaise sur CFM. On se retrouve dans 15 jours, mais on sera l'année prochaine.
Eh oui,
en
l'année 2022.
T'as une idée, oui, tu connais déjà le thème de la prochaine émission.
J'ai une programmation déjà longue.
Tu veux nous dire ?
Je vais parler d'un personnage que beaucoup de Ruthénois voient. Enfin, on le voit tellement qu'on finit par plus le voir.
Oui.
Je vais parler de Monseigneur Affre, la célèbre statue qui montre la cathédrale du Doigt, qui est sur la place de la Cité.
Ah !
Voilà.
Oui, bah, j'ai même pas fait gaffe que c'était...
Alors, c'est un Aveyronnais, c'est un héros de la paix, puisqu'il est mort sur les barricades parisiennes, archevêque de Paris, est mort sur les barricades parisiennes lors de la révolution de 1848.
Ah, super. Bon, bah, alors, écoute, tu vas encore m'apprendre plein de choses. Encore une fois, Vincent, merci beaucoup.
Merci.
Bonne fête.
Et oui, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Et prenez soin de vous, comme d'habitude, et prenez soin de vos proches.
Merci, Vincent.
Merci à toi.